original. Soyez bienvenus avec les Lacadons Boudelding.
Bonjour à tous.
Marina Rollman, Tom Villa.
Bonjour.
Tanguy Bessureau.
Salut.
Et Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Nos invités sont Valérie Bonneton et Didier Bourdon. En direct de Bercy, devant 800 000 personnes. Valérie Bonneton et Didier Bourdon, merci mille fois de venir en ce vendredi nous présenter Garde Alternée qui sortira la semaine prochaine, mercredi le 20 décembre, nous serons.
Franchement qu'on est vendredi. Avec, c'est pas une date spéciale aujourd'hui, vendredi
c'est Didier. L'anniversaire de ma maman.
Est-ce que je peux, me permettre de l'embrasser?
Ah oui, tout à fait.
Nous aussi.
Je crois que Arlette.
Voilà, je vous embrasse fort.
Bisous Arlette.
Avec Isabelle Carré, Laurence Stocker, Michel Villermoz de la Comédie Française, Hélène Vincent, Jacques Berroyer. On peut rajouter également.
Laurence Stocker de la Comédie Française.
J'ai déjà dit.
Non,
j'ai dit Laurence Stocker et Michel Villermoz de la Comédie Française.
C'est génial de dire qu'une seule fois la Comédie Française. Tu peux le dire deux fois.
Il faut le dire deux
tout
fois.
Tout ça dans ce film signé Alexandra Leclerc, où le point d'entrée, d'abord, le titre est extrêmement clair, l'affiche l'explique aussi extrêmement. Garde alternée, ce n'est pas les enfants, ce ne sont pas les enfants qui se retrouvent partagés au milieu d'un couple divorcé, mais c'est bel et bien le mari, et c'est vous, votre personnage, Valérie, qui en a l'idée.
Exactement, c'est d'un seul coup, voilà, un couple assez installé depuis 15 ans, un peu rangé. Et puis il y a le personnage d'Isabelle Carré qui débarque et qui va révéler un peu cette femme, voilà, et qui va tout bouleverser. Et donc, je vais proposer à
votre homme en commun, c'est-à-dire joué par Didier Bourdon, de se partager entre ces deux femmes. Le couple est vraiment dans une phase, on va dire, c'est à feu doux quoi que ça se passe. Hein.
C'est à feu doux.
Il se passe plus grand-chose.
C'est confortable.
Voilà, non, elle est prof de violon. Moi, je m'étais raconté qu'elle a mis toute sa sexualité dans le violon. Voilà.
Et c'est vrai qu'elle vibre. Elle a l'air très très heureuse quand elle dispense la musique.
On est d'accord. Vous faites une émission parallèle, hein, Didier et Daniel.
Parce qu'on est d'accord avec vous.
D'accord.
Il commente.
Donc, elle a proposé à Isabelle Carré, Virginie, de prendre mon mari une semaine sur deux.
Ça, c'est totalement dingue.
Mais sur le papier, c'est génial.
Oh, tu vois,
vous savez que ça existe parce que tout est possible.
Fantasme de mec. Mais comment ça existe?
Mais tout est possible. Oui, bien sûr, ça existe.
Une semaine sur deux.
Ouais.
Non, contrairement à toi, moi j'ai vu le film et je comprends totalement ce qui se passe ensuite dans la vie.
Parce que t'as vécu la situation
de Didier Bourdon. Mais moi j'ai préféré qu'elle soit en même temps, comme ça, il n'y a pas de problème. C'est du harem, quoi. Allez.
Ça a l'air idéal sur le papier, mais finalement, deux femmes, c'est aussi deux fois plus d'ennuis.
Mais
de même que deux hommes, c'est deux fois plus d'ennuis. Okay. Bah, excuse-moi, c'est juste d'en avoir plus. Parce que déjà, un à gérer ou une à gérer, c'est lourd. Alors deux...
C'est compliqué.
Voilà.
Là, il en a beaucoup.
Didier, vous dites plus rien.
Je suis crevé du film.
Mais vous avez tourné il y a deux ans, Didier.
Eh ben ouais, j'ai du mal à m'en remettre.
Non, mais déjà, quand on vous a présenté cette idée, d'abord, c'est l'idée, c'était une pièce de théâtre, c'est un roman,
c'est
bien d'où?
Non, pas du tout, c'est un scénario. Et d'ailleurs, quand on nous l'a présenté, moi j'ai lu d'une seule traite et quand même j'ai senti un petit truc un peu autobiographique. Et ce qu'on dit souvent, c'est que j'appelle Alexandra Leclerc, qui, je rappelle, a réalisé Les Sœurs Fâchées, Le Grand Partage, où on a déjà tourné avec Valérie, Le Prix à Payer. Donc elle aime bien ces histoires de couple un peu...
Un peu tordu,
oui.
Un peu tordu.
Oui, grinçant et drôle et en même temps, Dieu merci. Moderne. Et je l'appelle et je dis, mais enfin, il y a un petit truc bizarre, c'est du vécu ou pas? Et là, il y a un petit silence. et puis elle me dit, oui, mais ça n'a pas marché. Et elle, c'était du côté de la maîtresse. Alors, c'est, dans le film, c'est plus réaliste que ce soit la femme qui propose le marché. La maîtresse, j'imagine, c'est pas tenable.
Non, mais c'est, oui. Alors,
mais ça part d'un sentiment d'amour, c'est-à-dire qu'elle voulait pas perdre l'homme qu'elle aimait. Et c'est ça qui est beau dans ce film. Voilà, c'est que Valérie, voilà, se dit, de toute façon, il va peut-être partir.
Elle n'a plus rien à perdre.
En même temps, elle le fait. Le personnage de Valérie est un peu double. C'est-à-dire qu'on sent parfois une vraie sincérité, cette envie de partager son homme pour le garder tout de même une semaine sur deux. Et parfois l'occasion de jouer une rivalité avec la maîtresse au cas où, sur un malentendu, il en abandonne une.
C'est dans le but de le récupérer quand même.
Toujours.
C'est ce qui se passe, puisque du coup les rapports sont inversés. La maîtresse devient un peu la femme et la femme devient un peu la maîtresse.
Déjà, l'expression son homme, il y a un côté possessif qui
est scandaleux.
Bah, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'eux? Bah, c'est sa vie, c'est sa famille, c'est ses enfants. On peut dire qu'on a une famille, des enfants. Oh, oh,
ses
quand
enfants,
même,
son homme.
Ouais. Non, oui, son non. homme, sa famille, enfant, son homme, ses non, enfants.
Enfants, ça s'entend. Et d'ailleurs, les enfants, eux, hallucinent de la situation.
Ah oui. Et ils sont très bien d'ailleurs dans le film.
Ils sont vachement bien.
Et elle a pris d'ailleurs un petit enfant qui comprend plus ou moins la situation. Il a 7 ans. Mm. Il est à la limite de l'âge de raison. D'ailleurs, il balance quelques répliques assez marrantes. Et il y a aussi l'aîné qui, elle, je vous ai très 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 bien. Et on me dit souvent rigoler dans les scènes. Moi, c'est celle qui me gênait le plus dans le jeu. C'est qu'il y avait vraiment le regard de l'adolescente. C'est qui t'en veut à mort. C'était extra parce que là, j'avais l'air de... Après coupé, ça va, on rigolait, mais elle jouait bien le ce côté. C'est no pasaran.
Ils observaient.
Et c'est surtout pour des enfants, les parents sont censés représenter un exemple. Et là, les enfants, eux, sont presque plus traditionnels en se disant mais qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui se passe.
C'est souvent le cas.
Ouais, c'est souvent le cas quand même.
Ouais.
Donc, c'est-à-dire que vous pensez que c'est... Bah, pardon, hein, ça symbolise... Non, mais vous avez l'air tous d'accord en disant « Oui, c'est une tendance, c'est un truc qui se passe, c'est régulier. »
Bah non, mais le couple, c'est compliqué, c'est pas nouveau.
Mais j'entends,
c'est...
mais ce
sujet... Oui, bah, alors le sujet, après, le film est fort parce que c'est presque un fantasme. Hein, on ne dit pas la fin du film, mais je crois qu'on va en parler tout à l'heure avec un de vos invités. Dans les années 68, ils ont essayé
avec
un petit peu l'amour libre.
Avec le docteur qui s'en forêt, oui.
Hier, j'ai appris une expression qu'on ne connaissait pas, mais qui pourrait coller au film, c'est le trouble, c'est ça?
Le trouble,
voilà, oui. Bon, l'expression n'est pas très jolie.
Pas très jolie,
mais en tout cas, oui, voilà, c'est ça, c'est de se dire, eh ben, moi, avec les inconnus à trois, ça a très bien marché, pourquoi pas dans un couple hein.
Et puis, on a l'exemple de la mère de votre personnage, Valérie Bonneton,
okay, extraordinaire.
Qui est géniale. Hélène Vincent, qui, quelque part, est aussi une sorte d'avant-garde de la nouvelle façon de voir le couple, ou en tout cas de comment on s'arrange avec son couple avec le temps, à savoir que la fidélité, c'est peut-être pas la chose la plus importante au monde. Finalement, si son mari va faire quelques promenades...
Joué par Jackie Berroyer.
Ouais. Voilà, et qui finit toujours par rentrer, après tout, au moins elle a la paix, et puis elle garde finalement le bon côté.
Je trouve qu'il y a beaucoup de lucidité dans l'écriture, il y a beaucoup de lucidité dans ce personnage, et dans les nôtres aussi. Quoi. Voilà.
C'est-à-dire que le couple Hélène Vincent-Jackie Berroyer représente plus ce qui a dû se passer pendant des générations, avec, que ce soit en ville ou en campagne, peu importe, avec ce côté « je sais bien » ou « je me doute que mon mari me trompe » ou « je me doute que ma femme est soi-disant à sa soirée de copine mais qu'il se passe autre chose ». Mais c'est ceux qui ne veulent pas briser le couple en brisant le silence. Donc chacun fait le dos rond en disant « c'est comme ça, on a trouvé notre rythme, ça arrange tout le monde et on n'en parle pas ». Or là, c'est l'inverse, vous, avec cette incarnant cette nouvelle génération, c'est-à-dire que tout se dit, et c'est la femme qui est le moteur, en fait, dans cette situation-là, parce que ce sont les femmes, vous et Isabelle Carré, qui décidez, et l'homme là-dedans est un peu une balle de ping-pong, balancé vers l'une,
bon,
vers l'autre.
Je me casse, hein, c'est bon.
Ouais, moi, je dirais pas qu'il y a de la manipulation, mais quand même.
C'est marionnette, quoi.
Elle décide un peu de leur vie. Moi, je trouve que dans le scénario, elle remet les choses un peu à leur place. C'est-à-dire que bon, c'est au bout de 15 ans, la femme est, c'est assez facile, voilà, de partir, d'aller voir ailleurs, la femme qui scoltine tout, etc. Là, elle remet les choses un peu à leur place. Quand la maîtresse devient la femme et la femme devient la maîtresse, je trouve que fait du bien.
Pour aller au bout du raisonnement et en termes de génération, la génération de vos parents accepte la situation de la femme trompée ou du mari trompé et ne disent rien. Et à l'inverse, la nouvelle génération, c'est-à-dire vos enfants, n'acceptent pas non plus cette espèce de libertinage que vous allez organiser.
C'est libertinage, c'est-à-dire par exemple le personnage de Jackie Berroyer, il a une maîtresse, mais on sent que c'est plus un 5 à 7, on va dire. Tandis que là, non, le sujet est fort, parce qu'elle se rend bien compte que je suis vraiment amoureux je suis tombé dans le piège, d'ailleurs. Et d'ailleurs, le choix d'Isabelle Carré est vachement bien, parce que elle représente, elle a un côté un peu éternel adolescente, elle est dans une librairie, moi je suis prof, et voilà, et je retrouve mes 20 ans avec elle. Ouais. Elle le sent bien, Valérie. Ça pourrait presque, c'est presque un conte philosophique, hein. C'est pas juste une histoire
dont le message
Didier, ferme ta gueule.
Dont le message serait quoi alors si c'est un conte philosophique?
Le message, c'est ce que disait. Oui, c'est que sur le papier, c'est plaisant. Hier, je disais que le communisme, c'est un peu pareil. Sur le papier, c'est plaisant. Mais après, pour mettre en place, c'est compliqué. Parce qu'on parle d'amour, mais il y a aussi l'amour.
Moi, le message, c'est un film sur la liberté, un film qui autorise. Et du coup, le mec a pas envie de. ça l'amuse beaucoup moins, quoi, d'un seul coup, que la femme puisse autoriser son mari, dire vas-y, voilà.
Et puis, il n'y a plus d'interdit, du coup, c'est un peu moins intéressant.
Voilà. Exactement. Ouais,
mais en ça tout rappelle cas, la pièce de Pinter, l'amant, ça parlait de ça. C'est-à-dire que le mari part, l'amant arrive, en fait, on voit que c'est le même homme. Donc, ils mettent du piment dans.
Surtout, enfin, moi, ce que j'ai aimé dans le scénario, c'est que rien n'est jamais convenu jusqu'au bout de ce scénario. C'est
et vous, à niveau personnel, ça vous a donné des idées?
Comment?
À niveau personnel, ça vous a donné des idées?
Non, mais moi, c'est tout ou rien.
Tout ou rien.
Ah bah, évidemment.
Bon, de
quoi, évidemment, non.
La Guillarane des Neiges.
Non, évidemment. Moi aussi. Évidemment.
C'est tout ou rien.
Évidemment.
Mais vous y croyez, vous, à cette garde alternée dans la vie?
Je veux pas dévoiler, mais disons qu'il y a. Voilà, mon personnage, à la fin du film, je sais pas si. S'il est entièrement sincère, mais je
ne
le dis pas.
Je trouve qu'elle met en scène les fantasmes de pas mal de monde, même s'il faut du courage, ça peut donner des idées en tout cas aux gens.
En tout cas, ça
peut donner des idées.
Y compris ceux de Laurence Tucker, y compris aussi parce que tous les personnages en périphérie aussi ont une vie, ont une histoire. La Garde Alternée, ce film d'Alexandra Leclerc, pardon, en salle mercredi prochain, le 20, avec nos invités. Valérie Bonneton, Didier Bourdon, mais également Isabelle Carré, Laurence Tucker de la Comédie Française, Michel Villermoz de la Comédie Française. Ils sont juste dingues, chacun dans leur personnage, parce qu'on va quand même préciser aussi qui fait quoi, Laurence Tucker et votre meilleur ami prof aussi qui se cherche.
Parce qu'elle parle de la sexualité et de la solitude de tout le monde. Là, c'est plutôt un coming out qui va arriver. Dans
exactement. Et Michel Villermoz, alors lui, c'est clair, lui, il est déjà outé depuis un certain temps. C'est le pote d'Isabelle Carré qui travaille dans une librairie, si ma mémoire est bonne. Et qui, lui, tout ce qu'il veut, c'est du sexe, du sexe, du sexe.
Il veut quelqu'un dans son lit tous les soirs.
C'est ça, il ne peut pas rester seul. Voilà. Hélène Vincent, Jacques Barroyer.
Et Michel Villermoz, il faut le dire, il est au théâtre en ce moment sur la scène de la Comédie Française, dans La Tempête, où il incarne Prospero. Il est absolument magique, une mise en scène de Robert Carsen. Il faut aller le voir.
J'espère, Tom Villa, que vous avez compris pourquoi Valérie Bonneton et Didier Bourdon étaient nos invités.
Oh, bah oui, on en parle depuis 5 minutes, donc a priori, j'ai compris.
T'as compris.
Non, avant de commencer, je voulais quand même savoir qui décide de votre vie personnelle dans votre filmographie, Didier. Parce que là, j'ai l'impression que c'est un beau bordel quand même. Dans Les Trois Frères. Vous devez vous occuper de votre fils, qui n'est pas votre fils, mais un peu quand même, mais pas trop non plus. Dans 7 ans de mariage, crise de couple avec Catherine Fro. Dans Alibi.com, 30 ans de mariage avec Nathalie Baye, et vous trouvez moyen d'aller la tromper avec Nawel Madani sans vous faire choper. Et là, bon, là, vous faites choper la main dans le sac avec Isabelle Carré. Et d'ailleurs, il y avait une proposition de garde alternée de mari. Voilà, c'est une semaine chez ta femme, une semaine chez ta maîtresse. Alors, soit Valérie, vous êtes très cool, soit vraiment, vous pouvez pulpifrer. Mais moi, je pense que je ne pourrais pas être infidèle. Je pense que c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Pas assez organisé. Voilà. Moi, je me fais griller en 2 secondes. Et si c'est pas le cas, je pense que c'est moi qui craque au bout de 30 secondes.
Et tous les mecs.
De quoi?
Tous les mecs se
font. Qui est infidèle autour de la table? Non, mais c'est débile.
Non, tous les mecs se font gueuler. C'est-à-dire que je pense que les femmes ont un don pour voir si l'homme ment ou pas.
Un petit témoignage, Nagui.
Alors qu'à l'inverse. Sans le vécu.
En plus, c'est drôle, j'en parlais ce matin à la machine à café avec un membre de l'équipe. Et Marina me disait tu sais, l'infidélité, c'est comme les toilettes, faut jamais laisser de traces en partant. Alors, déjà, très belle image, Marina.
C'est la prime, c'est tout moi.
Non, mais en plus, la technologie, elle nous a niqué. On est hyper connectés, c'est cool, tout le temps avec nos portables, mais maintenant moi je reçois mes SMS sur mon portable, mais aussi sur mon iPad et sur mon ordi. Voilà. Autant dire que quand faut réserver des vacances ou mater une série, on va le faire sur l'ordi de ma meuf. Voilà. Vous vous rendez compte le travail que c'est d'être infidèle avec une maîtresse, que c'est comme si tu passais ta journée au boulot et le soir t'enchaînais avec du travail au black pour pouvoir finir tes fins de mois. Non mais c'est, il y a que les infidèles et les étudiants qui peuvent supporter ça. Et puis comment tu l'annonces à ton amant ou à ta maîtresse, tu vois? Alors écoute, je vais pas être dispo tous les soirs. Non, je fais pas les 3-8. Disons que chez moi c'est un peu comme une coloc, et ma coloc est très possessive. La rencontrer, t'emmerdes pas, tu sais, depuis son accident. Elle veut voir personne. En plus, chez moi, c'est tout petit, on n'a qu'une seule chambre. Non, voyons-nous à l'hôtel, ça sera plus pratique. Et puis le budget, on en parle du budget. Tu veux séduire ta maîtresse, donc tu lui fais des cadeaux. Tu culpabilises d'avoir une maîtresse, donc tu fais des cadeaux à ta femme. Ta maîtresse veut partir en week-end, t'es obligé d'inventer un séminaire d'entreprise. Ouais, cette année, écoute, le séminaire se passe à Venise. Et c'est à nous de payer l'hôtel. Les enculés, il y a vraiment plus une thune dans la boîte. Hein. Là-bas que chez Maubousin, un cadeau de départ en retraite. Voilà, j'ai avancé pour les autres et ils vont me rembourser après. Non, mais du coup, il y a ton banquier qui t'appelle et comme c'est le mari de ta maîtresse et que t'as pas envie de te battre avec lui, bon, bah voilà, du coup, tu prends un petit crédit à consommation pour pas qu'il y ait de bagarre. Puis au final, t'es ruiné, tu te fais chier à Venise et finalement, t'as racheté une Clio parce qu'il fallait dépenser le crédit à la consommation. Enfin bon, ouais, c'est un gros bordel. Non, vraiment trop d'organisation d'être infidèle. En tout cas, bon courage pour la garde alternée, Didier. Puis on espère que votre prochain film va traiter l'histoire d'un couple qui se retrouvera chez le juge des affaires familiales. Hein. Comme ça, la boucle sera bouclée. À moins que vous fassiez le remake de 50 nuances 14 degrés. Comme c'est parti, c'est pas impossible. Allez, bonne émission.
Merci, Sam Villa. La bande originale, Nagui. Sur France Inter. Mais là, vos oreilles ont sifflé quand on vous a dit que Valérie Bonneton et Didier Bourdon venaient aujourd'hui dans la bande originale.
Oui, et quand je pense à vous, je pense notamment au pouvoir de l'humour et notamment à un extrait de « Ils sont partout » d'Yvan Attal avec vous, Valérie Bonneton.
Mais j'adore ce pays, mais pas un noir, pas un arabe, pas de savate, pas de djellaba, pas de voile, pas un seul juif. Non mais tu te rends compte, pas un pays sans juif. Non mais, hey, moi ça me donne envie de faire...
Non, Heil Hitler.
À la vôtre, Jean.
Voilà, une scène absolument atroce et en même temps tellement drôle.
Bah oui.
J'imagine qu'à jouer, c'est jouissif.
Ah bah oui, de jouer ça, c'est complètement fou.
Moi, j'avoue que j'ai un souvenir précis de cette scène, vraiment. Et vous...
j'adore. Aucun noir, aucun arabe.
Et c'est bien, elle dit ça en me regardant. Vas-y,
moi aussi, elle m'a croisé.
C'est bien de dénoncer les choses comme ça, en se marrant.
Didier Bourdon, vous aussi, vous aviez dans une chanson parlé de ce genre de choses liées aux religions. Est-ce que vous vous fixez des limites malgré vous? Quand on vous propose ce genre de rôle, est-ce que vous dites j'y vais pas, c'est risqué, je prends sur moi, mais je. J'ai peur que ça soit mal vu.
Mal vu, non, c'est toujours bien de dénoncer les choses, c'est toujours bien, voilà.
Oh, mais de cette façon-là.
Oui, je trouve que si c'est un moyen de pouvoir parler, de pouvoir toujours dire, de pouvoir dénoncer, c'est faut pas s'en passer, faut le faire, voilà.
Et vous n'avez pas de crainte? Moi, je me dis toujours, quand je vois cette scène-là, il y a ceux qui vont le prendre forcément à la rigolade et d'autres qui vont... Qui vont se dire simplement y a, derrière l'humour, on peut toujours soupçonner une forme de déclaration.
Non.
Moi, je crois quand qu'il vaut mieux rien dire.
Non, Yvan Attal, quand même, quand il fait ce film, c'est pas derrière, il n'a pas une forme de déclaration.
Non, mais c'est pas forcément un film qui a été très bien reçu, c'est ça que je veux dire.
Ah bah après, c'est autre chose, après, voilà.
Non, mais c'est pour ça, la réception, elle ne vous appartient plus une fois que vous avez joué un personnage.
Non, moi, je trouve ça très bien de l'avoir fait.
Ouais. Et vous, Didier Bourdon, jusqu'où vous iriez sur ce sujet-là, notamment?
Avec les inconnus, on est allé assez loin.
Ouais, mais aujourd'hui
oh, ça, je sais pas. Non, je pense que... si on a vraiment quelque chose de sincère à dire, je le dirais. Oui, voilà.
Votre chanson, c'était « On ne peut plus rien dire ».
Oui, on ne peut plus rien dire, c'était plutôt gentil, entre guillemets. Enfin, c'est toujours d'actualité, d'ailleurs.
Bah ouais.
Non, parce que c'est plutôt... Je prenais un mec un peu fragile qui disait « Putain, on ne peut plus rien dire ». Un peu décontenancé, quoi. C'était donc ce qu'on a beaucoup fait, d'ailleurs, avec les inconnus. C'est-à-dire, on fait passer les messages par le biais de personnages. Donc, et là, au contraire, il faut aller loin, parce que sinon, si ça tout devient aseptisé...
Il y avait des acteurs qui avaient peur, quoi, en fait, de se lancer, ouais.
Moi, j'ai lu des interviews où je sentais que c'était pas juste évident de dire « oui, on va dénoncer ». C'est se dire, voilà, on fait partie d'un ensemble, d'un film, avec un point de vue.
Dit « je ne peux pas faire ça ».
Et je deviens complice, quelque part, de la vision du réalisateur.
Moi, il y a des choses qui me font pas rire, par exemple. Ouais. Oui, c'est vrai. Il y a des choses...
De quel ordre?
Par exemple, je sais pas, le handicap,
des choses comme
ça.
Moi,
ça ne me fait pas rire. Je trouve qu'il y a certaines limites. Voilà. Ouais. Moi, c'est mon avis. Mais ouais. Bon, parce que ça ne me fait pas rire.
Donc c'est important.
Parce que ça me touche énormément. Donc je trouve qu'on peut pas se marier. Moi, c'est.
Ouais, vous pourriez pas incarner du coup un texte qui ne vous fait pas rire. Ça c'est un principe de base.
Ah bah non, je pourrais pas. Bah bien sûr. Si je...
Après ça dépend du pognon, si.
Jusqu'où ne te fait-il pas rire cette
une volonté commerciale, etc. Voilà, non, j'ai pas envie, ça me fait pas marrer.
Et vous Didier, il y a des thématiques, Valérie vient de nous parler du handicap et vous
Non, moi c'est pas ça, c'est avec qui surtout déjà. Bon, c'est vrai que si il y a un metteur en scène que j'aime pas, qui me propose un truc, bon, je dirais non.
Ouais.
Même en dehors des propos, la question n'est pas là. Après, si ce sont des gens qui sont sincères dans leur délire et tout, on peut aller très 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 loin. Et en prévenant.
C'est ce que l'on voit quand même, la chose la plus impressionnante, avant même de voir le film, quand j'ai vu le casting du film, c'est-à-dire que c'est une... On se demande même comment c'était possible de réunir autant de talents dans un emploi du temps avec autant d'occupations à droite et à gauche. Est-ce que vous-même, vous avez été impressionné au fur et à mesure, je ne sais pas dans quel ordre ça s'est passé, si vous êtes arrivé, le casting était complet. Et
bah, Alexandra, elle a déjà fait les sœurs fâchées, le prix à payer.
Non, non, mais maintenant. J'entends. Oui.
Donc elle est vraiment, les gens sont contents de
travailler. Non, mais au-delà de ceux qui veulent travailler avec elle, ouais. C'est pas toujours simple, notamment pour Laurent Stocker et Michel Villermoz, de se libérer des contrats du français.
Oh, mais Laurent Stocker, aussi. Il jouait la plus tournée. Il a une énergie incroyable, Michel Villermoz aussi. Michel Villermoz, d'ailleurs, on l'a discuté, c'est un ancien champion de cyclisme.
C'était le moment de le dire, je vois pas le rapport.
Non, mais c'est dans le sens. Non, mais dans le sens, c'est les mecs ont une santé.
Ouais,
moi, il y avait des fois, on tournait, et Laurent allait jouer le soir, Arthur Rouy, je pensais à lui, je regardais l'heure, je disais 11h15, ça y est, il a terminé. Parce que je sais ce que c'est, la cage aux folles, moi, j'étais crevé et tout. Ils ont une énergie incroyable.
Ouais, il fait parfois deux pièces.
C'est de la folie.
Ils disent, bah non. Bon, ils sont.
Puis des pièces où il a le titre en plus, enfin, tant qu'à faire, il enchaîne Cyrano.
Et puisqu'on parle puisqu'on parle de théâtre, Isabelle Carrès sera au théâtre. On la recevra d'ailleurs début janvier avec Bruno Solo. Elle sera notre invitée ici. 17 janvier, voilà. Tu as l'information, c'est bien.
On va aller la voir.
Mais grave. Valérie Bonneton, Didier Bourdon sont nos invités pour parler de la garde alternée, où tout est expliqué encore une fois avec cet homme qui se coupe en deux. Et avec le rouge à lèvres à la main, le lipstick de Valérie Bonneton et la paire de ciseaux prêts à couper le couple d'Isabelle Carré. C'est une comédie signée Alexandra Leclerc et c'est à partir de mercredi au cinéma. Voici l'humeur de Marina Rolle.
Oh là,
vous ne savez pas ?
Ah mais non,
incroyable.
Bon bah j'y vais alors, très bien. Alors cette semaine, j'ai une nouvelle à vous annoncer, j'ai découvert que j'étais vieille. Voilà. Vous ne le voyez pas autour de la table parce que vous êtes vous-même tous vieux, non. Mais vous le cachez.
Je suis belle, Marina.
Maggie. Non, mais non, Nagui, tu te mens à toi-même, à grand renfort de basket criarde, Leïla, en allant voir des slameurs sud-africains dans des squats à Bobigny, Daniel, il a su, mais c'est tout à son honneur, voilà. Mais voilà, moi, je suis vieille, voilà, c'est tout. Ça s'est passé il y a deux semaines, j'étais à une soirée, il y avait des gens qui avaient 5-10 ans de moins que moi, et on s'est mis à danser. Je comprenais pas ce qu'il faisait. Il se pliait à des angles complètement inattendus, à contre-temps sur la musique. C'était très beau, mais moi, j'avais l'impression d'être ma mère à un mariage. Tu sais. Ah, George Michael. Ah, ça, j'aime bien. Viens, on y va. Ah, mon Dieu. Si c'était que ça, ça aurait pu être un accident. Sauf qu'une semaine plus tard, je dîne avec des amis. Et à un moment donné, la phrase suivante a été prononcée. C'est marrant parce qu'avant, j'aimais pas du tout les Bourgognes. Oh, la phrase de vieux. Oh, la phrase de vieux. C'est marrant parce qu'avant, j'aimais pas du tout les Bourgognes. Il y a 20 ans, c'est une phrase qui m'aurait donné envie de me passer les globes au chalumeau. Mais quand t'as 8 ans, c'est le genre de truc que t'entends pendant des dîners, tu te griffes le visage pour faire passer le temps tellement tu t'emmerdes. Donc voilà, j'ai relevé à ce dîner que c'était une phrase de vieux. Et un de mes amis a dit que pour lui, la mesure la plus choquante du temps qui passait, c'était les enfants de nos amis, tu vois, qu'on voyait grandir. Et c'est à ce moment-là qu'un autre ami a eu cette épiphanie. En fait, on est devenus ces gens qui, quand ils voient les gosses de leurs potes, disent « Qu'est-ce que t'as grandi ?» Mais non, mais je veux pas être cette personne. Parce que je me rappelle très bien ces grands idiots qui te regardent bêtement en disant « Oh là là, mais qu'est-ce que t'as grandi ? Je t'ai connue, t'étais toute petite. » Je me rappelle très bien que j'avais envie de leur dire « Mais qu'est-ce que ça peut me foutre ? Est-ce que t'as une boule de feu, un malabar, des lasagnes ? Non, alors arrière, ectoplasme !» Sauf que maintenant, c'est moi l'ectoplasme, c'est très dur. D'autant qu'on vit dans une époque, vraiment, le jeunisme par excellence, partout, le monde des nouvelles technologies, par exemple, l'industrie qui mène le monde. À 32 ans, t'es un senior. Toutes les grandes boîtes du digital, elles naissent dans des incubateurs, ça veut tout dire. Bientôt les types, ils seront là, ouais, on vient de monter une start-up, ouais, on a levé 4,5 milliards, mais bon, là, on est encore en couveuse. C'est le règne des fœtus, bordel! Et puis ça va devenir de plus en plus dur de se recycler avec la modernisation de la pédagogie. Parce que les qualifications d'hier, un jour, ça vaudra plus rien. Un jour, il n'y aura plus de notes à l'école. Un jour, ils évalueront les travaux en mettant des autocollants en forme de lune qui sourit. Enzo, Thaïs, bravo, vous avez tous les deux une pastèque qui fait un clin d'œil. Et donc un jour, notre génération va se battre pour le même poste que des gens qui auront 15 ans de moins. Et tous nos diplômes vaudront plus rien du tout. En vrai, les mecs qui se feront embaucher, ils diront des trucs en interview, genre mes qualifications. Eh ben, c'est très simple. Pour mon travail de master en physique appliquée, j'ai eu deux pingouins qui font du skateboard et une mandarine. Je crois que mon dossier parle de lui-même. On est foutus. Le seul truc rassurant, c'est que d'ici 2020, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les personnes de plus de 65 ans seront plus nombreuses que celles de moins de 5 ans. Voilà. Et là, vous ferez moins les malins, les petits jeunes, quand à chaque soirée, on mettra du George Michael.
Merci, Marina Roman.
Ouais, j'adore, tu vas danser? Oh.
Ah ouais. Mais tu danses comment?
Mais comme une daronne, comme ça.
Marina Roman, de la bande originale. Merci, Marie. Nagui, la bande originale. Justement, dans cette bande originale, nous allons recevoir le docteur Christophe Fauré dans quelques minutes. Mais d'abord, on va évoquer en musique des années, des dates de votre carrière, notamment les années 70, où Valérie Bonneton, vous écoutiez du Bob Marley. Sun is
shining. C'est vrai ?
Ouais, ma mère écoutait beaucoup. Vous avez entendu, j'étais à peine née. Ouais, ma mère était d'accord, elle écoutait beaucoup Bob Marley.
Ça, c'est la musique que vous entendiez à la maison?
Oui.
Petite?
Oui, exactement. Ouais. C'est des souvenirs que j'ai. Voilà, Bob Marley. Ma mère dansait comme une folle sur Bob Marley.
Ah,
il y avait de l'ambiance.
Ah, c'est ouais. Très tôt,
des souvenirs, elle était en transe.
C'est vrai.
Ouais. Ouais, c'est vrai en plus.
Et vous, très c'est tôt, vrai, enfant, vous étiez aussi un peu en transe dans ce côté déguisement, jeu.
Ah oui, je me souviens que, ouais, bah comme tous les enfants, quoi.
Bah oui, certains plus que d'autres, ouais.
Je mettais des écharpes longues parce que j'avais pas des cheveux assez longs. Et puis un bonnet, je prenais un micro et je... J'étais Sylvie Vartan, j'étais...
Vous avez grandi dans le Nord, hein, c'est ça, d'où?
Oui, oui, oui. J'ai eu Aniche.
Pardon.
Aniche.
Et quand est-ce que vous avez commencé à faire une activité artistique? J'ai l'impression que c'est venu assez tard.
Très, très tard.
Ouais.
Bah oui, très tard en fait. C'est surtout en première où j'ai fait du théâtre. J'ai dit voilà, je vais faire ça. Mais j'avais très
enfant,
envie,
ouais.
Très longtemps, j'avais très très envie d'être actrice. Ouais. D'être une artiste,
d'être
une grande artiste.
Mais je crois que vos parents étaient pas, vous inscrivaient pas nécessairement là où vous demandiez.
Non, pas du
quoi.
Tout. Non, il y avait rien dans le Nord, il n'y avait pas de musique. Ouais. Et je rêvais de faire de la musique. Le piano, j'en rêvais. Voilà, ça s'est jamais fait. Donc j'ai acheté un piano plus tard.
Ah, vous jouez maintenant du piano?
Ah oui, des petites préludes de bac, petits trucs, je me suis mis au piano.
Vous n'êtes pas interdit de le faire plus tard?
Non, j'ai acheté un piano, j'ai pris des cours comme une folle et je suis devenue dingue du piano. Puis après, mes enfants sont arrivés, alors là, c'est devenu plus compliqué.
Ouais.
Mais toujours, voilà, c'est... Je m'imagine vieille jouer du piano. J'aurais ça.
Avec un chat roulé en boule sur le
Pourquoi
piano.
Pourquoi pas?
Oui. Je sais pas, il y a un petit côté comme ça chaleureux. Vieille dame avec son piano.
Quand, oh non.
Quant à vous, Didier Bourdon, vous écoutiez Police. C'est que de Bob Marley à Police, on a le fil conducteur commun, parce que c'est vrai que le reggae et le rock est un vrai mélange, là, ce qu'on entend dans la musique de Police.
Oui, c'était un groupe punk au départ, Police. Hein.
On va monter un tout petit peu, c'était ce qu'on on parlait de la musique, excusez-moi.
Et finalement, c'est aussi un groupe à un message, et d'ailleurs, ça me fait penser au mouvement révolutionnaire, Didier, que vous avez créé dans les années 70. Vous étiez au collège. En cinquième, je crois.
À Mulhouse,
vous avez créé le bourdonisme.
Ouais. Ouais. Ouais, j'ai toujours aimé la période de la Révolution française.
On n'a pas reçu le programme, là, on ne sait pas trop. Ouais.
Alors, d'où ça vient, cette histoire de bourdonisme?
Non, c'est la Révolution française, j'aimais bien. Donc, j'avais des potes et j'avais créé le bourdonisme. Alors, après, le problème, c'est qu'il y a eu des bourdons pendant la Révolution française, mais il y en a eu deux, d'ailleurs.
Mais c'est un
mouvement.
Mais
ce n'est pas des mecs très sympas.
C'était quoi l'idée du mouvement?
Non, l'idée, oui, c'était de créer un nouveau contrat social. Non, on travaillait bien à Mulhouse, c'était sérieux, les Arlésiens. Et non, c'était une belle époque. Et d'ailleurs, je suis toujours en contact avec deux camarades.
Mais vous vouliez quoi?
Ouais, c'est quoi le.
Ouais.
Vous c'est quoi le principe
Putain,
de ce...
C'est quoi les hommes politiques, c'est faire parler de moi, c'est tout.
Tu cherches un programme.
Ils demandent le programme, ils sont complètement ouais. débiles.
Il n'y avait pas une idéologie.
Écoutez,
du
je ne vous ai pas coupé la parole.
Didier, il n'y avait pas d'idéologie sous-jacente.
Les Français veulent savoir.
L'idéologie, c'est ma gueule, voilà, c'est tout.
Le culte de la personnalité, et vous êtes déjà
non,
aussi...
L'amour de l'histoire aussi, c'est vrai qu'on devait certainement avoir un prof d'histoire super intéressant.
Oui, mais...
Et donc ça m'a plu, voilà.
Mais alors, c'était quoi qui dirigeait? Il y avait du partage des richesses.
Voilà. J'ai coupé la tête à pas mal de copains.
Il y avait une carte d'adhérent?
Non, je pense que...
Non, mais une cotisation qu'il gardait.
Une cotisation.
Non.
On saura rien.
Non, il y avait une organisation, d'ailleurs, je pense à ça, parce qu'en parlant de carte d'adhérent, c'était les débuts des pains au chocolat dans les lycées. Il fallait donner 50 centimes, alors il fallait... Donc je devais certainement surveiller la cagnotte et tout. Non, j'avais un petit côté comme ça un peu.
Et avec un look aussi particulier, je crois, hein, habillé tout en noir vêtu.
Ah non, ça c'est après ça, Saint-Germain-en-Laye.
Ah ouais.
Alors là, c'est plus la même ambiance. Hein. Ah oui. Autant Mulhouse, c'est...
Avec un poids de senteur orange accroché à la boutonnière.
On
cherche.
Voilà. Bon, j'ai pas fait la même carrière que Villani, là. mais oui, c'est ça. Bah, on était un peu des originaux, ouais. Et aujourd'hui, comme le sketch de Mademoiselle, on est des vieux cons. Ouais. Mais,
Didier, le point de départ quand même de tout ça, c'est que au-delà de vouloir rassembler du monde autour de vous, vous n'aviez pas spécialement en tête de monter sur des planches, spécialement en tête d'être comédien ou d'être humoriste.
Si, enfin humoriste, peut-être pas, mais déjà à Mulhouse, j'avais fait ma première pièce de théâtre chez un copain qui avait un théâtre chez lui et c'était Les Boulingrins, une pièce de
Courteline.
Et déjà j'adorais le, je me souviens même des éclairages dans les petits spots et tout, et j'adorais cette ambiance là du théâtre et tout. Déjà vraiment hein. Et même à 6 ans je faisais Strangers in the Night avec le chapeau pour plaire à ma mère.
Mais non, mais voilà. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant, mais c'est-à-dire que au-delà du mouvement du bourdonnisme, c'est-à-dire, est-ce que vous avez dans votre tête
à
cet âge-là, vous êtes dit je sais pas ce que je vais faire, je sais pas ce que je veux faire, qu'est-ce que je vais devenir.
Ah, j'avais des rêves dans la tête. J'aimerais bien un jour faire l'émission de Nagui.
Mais avant la déchéance,
Non, bah nous on se connaît depuis très longtemps. C'est vrai que après il y a eu le café théâtre où j'ai rencontré Pascal d'un côté et Bernard et c'est vrai que à ce moment-là d'ailleurs je gagnais pas bien ma vie mais je n'imaginais pas faire autre chose, ça c'est sûr. C'était, et après on sait pas la carrière qu'on va avoir. Quand tu parlais d'humour, moi j'ai fait le conservatoire, bon j'ai fait des choses tragiques, je savais pas que ça allait être cette carrière-là. En revanche, dans l'humour, ce que j'aime bien, c'est ce côté voilà, côté un peu ben le bourdonnisme, dire des choses
faire passer quand même quelques
messages. Ouais, des messages, à notre petit niveau, mais balancer, ouais, c'est sympa.
Dans les années 80, fin des années 80, début 90, c'est la naissance des Inconnus, et là vous écoutiez. Tears for Fears, ils se reforment hein, pour votre information après. Une longue traversée du désert ou un long silence, ou peut-être parce qu'ils ont plus d'argent, je ne sais pas.
Ouais,
c'était Shout. Non, c'est un énorme succès, ça.
Ouais. Shout. Et dans cette année-là, c'est 87, vous montez sur scène dans votre premier spectacle, Le Secours, Tout va bien, au Théâtre Fontaine, ouais. avec les.
On était quatre à l'époque, avec Seymour Bruxelles.
Ouais.
Et on en parlait tout à l'heure avec Nagui. Puis après, Seymour est parti en fin 88.
Je croyais que t'allais dire il est parti en couille.
Non, mais j'ai un souvenir assez marrant, c'est que quand il est parti.
Vous étiez 4 au début, en fait.
Ouais. Il n'y a pas eu 5 avec Smaïn.
Non, Smaïn n'est pas resté longtemps parce qu'il avait son one-man show. Mais quand Seymour est parti, moi je me souviens très très bien, moi je ne savais pas ce qu'on allait devenir, quoi. Et j'ai mon copain de conservatoire, Jacques Descombes, qui est un metteur en scène connu aujourd'hui, qui nous a dit on va essayer de faire les sketchs à 3, vous en faites pas. Et on a fêté les magouilles à 3, et d'un seul coup ça a démarré. Mais vraiment, on était, j'étais déboussolé parce que Seymour s'entendait pas avec notre producteur, qu'on ne citerons pas. Voilà. Mais voilà.
Celui qui vous a aidé à trouver le nom.
Ah non, oui. Les Inconnus, ça vient de Philippe Bouvard,
oui.
Qui nous a reproché de prendre son nom pour les sketchs. Et on a zidé après de s'appeler Les Inconnus, comme ça on n'aura pas de procès.
C'est fou quand même, parce que avec un peu de recul et maintenant j'espère que vous pouvez en rire, il y avait beaucoup de personnes qui vous ont mis soit des bâtons dans les roues, soit carrément des papiers bleus de procès ou des procéduriers, que ce soit des problèmes avec votre ancien agent, que ce soit ce que vous dites sur Bouvard, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'image comme ça de Bouvard qui menace de procès des humoristes.
Oui. Mais c'est aussi un peu une forme de. Il voulait qu'on reste avec lui aussi, avec le recul. Bon, c'est vrai que c'était.
Ça, c'est votre gentillesse. Ce que je veux dire par là, c'est que, qu'est-ce qui fait que, malgré les éléments extérieurs, on continue de se battre en croyant profondément et sérieusement à ce que l'on est en train de construire ?
Ah, parce que c'est comme je disais, c'était pas réfléchi, quoi. C'était, et d'ailleurs, l'histoire de Bouvard nous a vachement resserré aussi, de nos liens. Donc, on y a cru. Et je disais à Bernard, je me souviens une fois, tu verras, on va y arriver, on va devenir un trio.
Encore fort. Plus soudé, ouais.
Ouais, voilà, on ne savait pas ce qu'on allait devenir.
Et l'exercice de la radio auquel vous vous êtes frotté avec succès, d'ailleurs, tous les trois, c'est.
C'est pas celui que je préfère, moi. Bernard était très doué parce qu'il avait fait déjà de la radio. C'est bon, alors moi je faisais les billets, c'est pour ça que je vois les billets que ont fait nos deux jeunes autour de cette table qui sont très jeunes. Tout je les félicite parce que vraiment. Ils
bouge pas, il y a Morin et Tanguy Passeron qui
vont
arriver pour équilibrer l'âge.
Pas, et je sais que c'est un boulot monstre. Hein, parce que faire ça régulièrement, c'est énormément de travail.
C'est énormément.
Et puis donner beaucoup d'énergie. C'est vrai. Après nous, on ramait, il fallait faire un sketch tous les jours. Bon, heureusement, l'actualité parfois nous aidait. Mais c'est pas ce que je préférais parce qu'il y avait un petit côté. Moi, j'ai préféré un peu les sketchs, ce qu'on a fait après à la télé et tout ça. Des sketchs un peu qui demandent plus de temps parce qu'on avait plus de temps pour les écrire, pour qu'ils puissent être plus pérennes, quoi.
Et ça n'a pas duré si longtemps, les parodies ou les détournements des Inconnus à la télévision, et pourtant, c'est culte.
Ah ouais.
Ouais, on a fait pas beaucoup. mais en fait beaucoup en même temps. Maintenant, moi, je les regarde à nouveau depuis 4-5 ans. Mon fils m'a dit, tu devrais regarder. Et j'avoue qu'il y a même certains sketchs. Ah putain, celui-là, oui, c'est vrai, oulala. Mais il y avait une énergie incroyable, une émulation. Et un bon délire.
J'ai beau être matinale, j'ai mal, c'est un truc quand même. Enfin, les interviews à la Arte. Avec
moi, j'adore.
Arte,
le personnage du professeur,
mais
celui-là,
oui.
Je sais que je l'aime bien.
Ce
j'ai du mal à me reconnaître d'ailleurs.
C'est vrai.
Ah, c'est un personnage horrible, un petit peu libidineux, tu sais, qui est là avec la bonne femme. Bernard joue la bonne femme de Chine. Et Pascal joue l'intellectuel africain.
Africain, quelle langue comme ça qui surpasse tout le monde.
Encore avant-hier, lors d'un match de foot retransmis à la télévision, les deux commentateurs, mais le vrai match de foot, hein, les deux commentateurs sur le PSG, exactement, les deux commentateurs parlaient, hein, et puis se mettent à parler de la vie d'un joueur en disant, mais d'ailleurs lui il a quitté sa femme, ainsi de suite, et l'autre a dit, mais cela ne nous regarde pas. Et tu dis, mais c'est incroyable, je sais pas combien. Ouais, c'est 20 ou 30 ans après,
la
vanne est là. Quoi.
Non, mais après, il faut dire une chose qui aujourd'hui serait très difficile à faire. C'est parce que souvent, on nous dit est-ce que vous pourriez dire les mêmes choses et tout. Je pense qu'on se débrouillerait.
Oui,
mais c'est surtout qu'on avait 3 mois pour faire une émission. Et aujourd'hui, je pense, je sais pas s'il y a des humoristes qui pourraient avoir ce luxe. Aujourd'hui, on nous dirait, d'ailleurs, TF1 nous avait proposé une émission tous les mois, on a refusé, parce qu'on s'est dit on va perdre notre âme. On avait 3 mois. Alors, c'était du boulot beaucoup, mais on pouvait écrire 30 sketchs et jeter 15. Et c'est peut-être certainement grâce
c'était
à ça.
C'était sur Service Public, hein, c'était la 2 qui vous permettait ça, et Marie-France Brière.
Avec Marie-France Brière.
Et bon, Gérard Pulicino à la réalisation, au passage.
Pulicino qui nous a hyper aidé aussi, bien évidemment, avec tous ses effets spéciaux dans tous les sketchs un peu. Ah ouais.
Valérie Bonneton, à cette époque-là, dans les années 90, vous écoutiez Rita Mitsouko.
Et à cette époque, vous, Valérie, vous vous installez à Paris.
Ouais.
Et vous commencez à prendre des cours au cours Florent.
Exactement.
Et comment vous faites? Vous travaillez à côté?
Plein de petits boulots, des tonnes de petits boulots. J'ai payé ma chambre de bonne pour payer les cours Florent. J'avais décidé que je voulais faire le conservatoire. Et puis je m'étais dit, je me donne 3 ans, je fais ces cours. Et si je l'ai, je continue, sinon je ferai autre chose. Voilà, on verra. On verra. Donc c'était la liberté, c'était la folie, c'était l'amour, la joie, c'était tout ça. J'ai que des excellents souvenirs, quoi. Pas d'argent du tout, mais très heureuse. Voilà, parce que je décide de ma vie. Ouais. Donc il y a rien de mieux.
C'est presque une libération. Ouais.
C'est
enfin, je décide de ma vie,
vrai.
C'est ça.
C'est vrai, c'est vrai. Si oui, c'était une libération. J'avais peur de rien, du tout. Je me posais pas de questions. Souvent, enfin, je me dis c'est dingue parce que même moi, je m'inquiète un peu pour mes enfants, enfin tout le monde, quoi. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils vont faire et tout. Je me dis mais c'est fou. Moi, je me suis jamais inquiété pour moi, quoi. J'avais rien et tout était possible. Voilà. Ouais.
Non, mais vous aviez d'autres personnes qui s'inquiétaient pour vous à ce moment-là, j'imagine.
Ouais.
Voilà, mais bon, c'est comme ça.
Comment
c'est
vous
bien, tant mieux.
Et comment vous avez appris que vous étiez reçu au concours d'entrée au conservatoire?
Alors, comment je l'ai appris? J'avais une amie, Jeanne Balibar, on a passé le concours en même temps. Et puis, il n'y avait pas de téléphone, il y avait les répondeurs et tout ça. Et moi, je devais garder une petite fille ce soir-là, en échange de ma chambre de bonne. Et donc, les résultats devaient arriver à 18h, on y va ensemble. Puis, ils ont tardé, ils n'arrivaient pas. Donc, je lui ai dit, écoute, appelle-moi, je vais rentrer, appelle-moi si je l'ai, sinon, m'appelle pas. Et en fait, comme elle l'a eu, et moi, je l'ai eu aussi, mais je ne le savais pas. Il fallait qu'elle rentre chez elle pour pouvoir m'appeler parce que le numéro était chez elle. Enfin bon, c'était très compliqué, on n'avait pas de téléphone portable. Et donc elle a vachement tardé, elle a bu des verres et tout ça avec tout le monde, évidemment. Donc moi j'ai pas eu de nouvelles et c'est une copine vers 23h qui me dit t'as le conservatoire. Je lui dis quoi?
Et t'as oublié la gosse.
Et elle m'a dit j'ai fait la fête toute la nuit après. J'ai fait la fête toute la nuit.
Pendant 4-5 heures, vous avez dit je ne l'ai pas.
Ah oui? Ah ouais. Ah ouais, je me souviens que la petite que je gardais, elle me dit on va regarder un Walt Disney, on va regarder un conte de fées. Et je sais pas, ça résonnait chez moi le conte de fées. Je dis, c'est nul.
La bonne nounou.
J'adore. Ah, j'adore. On
va se faire massacrer la tronçonneuse.
C'est nul les contes de fées.
80. Pardon
Voilà, non, c'est tout.
95, 96, dans cette même période, chacun, vous avez votre premier film. Vous, Didier Bourdon, c'était le premier film des Inconnus. Et là, vous écoutiez.
C'est bon ça,
J'adore. Ouais, j'hallucine. Jusqu'à présent, vous avez des bons goûts musicaux et là, vous avez craqué.
C'est très bien, ça. J'adore. Dame Gynéco, à l'époque, c'était génial.
Ah, ça me saoule.
Moi, j'ai jamais aimé.
Ouais, moi non plus.
C'est bien, l'accent.
Si maintenant, on doit donner son avis.
C'est un tribunal de la musique.
Non, du tout.
On ne juge pas, Didier, mais c'est de la merde.
Vous laissez pas faire.
Non, j'étais un peu étonné.
Tellement de belles choses.
On peut pas dire ça. Tears for Fears, hop, Doc Gynéco.
Bah, pour faire un truc français, quand même, un petit peu aussi.
Ouais, moi, je dis oui.
Bravo. Alors, on a le CRIF en ligne.
Il y avait Johnny aussi.
Non mais on va écouter de la musique de Valérie heureusement tout à l'heure, mais pour en revenir à...
Non, Didier, on va discuter tous les deux. Didier, non, en 95, c'est votre premier film. C'est Les Trois Frères. C'est un succès monumental. 7 millions, plus de 7 millions de spectateurs. C'est complètement dingue.
C'est dingue.
C'est complètement fou. C'est pas des invites. L'idée de se lancer dans un film, tous les trois, c'est un pari... C'était un pari qui était quand même assez risqué.
Non, encore une fois, c'est parce que on voulait explorer un autre champ de création. Comme le théâtre, on avait déjà beaucoup écrit de sketchs pour le théâtre, après on avait fait des sketchs à la télé, on sentait qu'il fallait... Et c'est vrai que c'est autre chose, un scénario, ça n'a rien à voir. Ça met plus de temps, il faut construire une histoire, les personnages souvent sont plus proches de ce qu'on est dans la vie, alors que dans les sketchs, on peut vraiment faire des personnages complètement très, très éloignés. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça avec Claude Berry, des souvenirs incroyables. Même pour le montage du film, là j'ai vu que Jordi venait de se marier là. Parce qu'à l'époque c'est Jordi qui devait faire le film. Et moi je voulais pas, parce qu'il était pas bon le pauvre Jordi. Et Claude Berry dit alors tu fais un test. Et Dieu merci, on a fait un test et le Jordi, il avait rien à branler du texte, il jouait avec ses jouets. Et Claude Berry m'a dit bon ça va, prends ton gosse. Et après il nous a félicité parce que le gamin est formidable dans Les Trois Frères.
À propos de gosse, il y a eu un problème de t-shirt.
Oui, dans Les Trois Frères, oui.
Ouais.
Oui, on s'en est rendu compte d'ailleurs, heureusement. Oui, parce qu'il y avait un. Oui, il y avait un. Et à l'époque, les effets spéciaux, ils n'étaient pas terribles.
Il y avait Mickey,
voilà, il fallait le cacher.
Parce que je ne savais pas que c'était possible. Disney aurait pu vous attaquer parce qu'il y avait un t-shirt, enfin un gamin avec un t-shirt avec un Mickey dessus et que pour un droit à l'image. Je trouve ça dingue.
Ah ouais, bah mais c'est encore aujourd'hui, hein, beaucoup.
Ah ouais, c'est fou, ouais.
Bien sûr.
Pour un t-shirt. Vous n'étiez pas en train de vous moquer de Disney en particulier.
Ouais, non, mais vous n'avez pas demandé d'autorisation. Alors après. Comme disait le directeur de prod, il disait ils peuvent ne pas le faire le procès, mais on va pas avoir une épée de Damoclès.
Donc il a fallu carrément retourner la scène.
Je sais plus ce qu'on avait fait, ou alors on avait pris une autre prise où ils avaient changé l'axe du truc pour pas qu'on voit la tête du Mickey.
Je sais plus ce qu'ils ont fait.
Et vous avez écrit aussi le texte de la chanson du générique qui est chanté par Catherine
Ringer. Oui, Catherine Ringer que je salue. C'est pour ça que quand tu as choisi tout à l'heure Tamitsuko, c'est une fille qui vient de sortir d'ailleurs un album et que j'adore.
Formidable.
Et pour l'anecdote, donc je lui donne la chanson. Elle fait une première prise. Elle dit, bon, on en fait une deuxième. J'ai dit, bah, Catherine, si tu veux, mais c'est déjà génial. Donc, c'est une chanteuse remarquable. C'est un artiste incroyable.
Ouais, et puis c'est une bonne camarade en plus. Humainement, elle est top. Justement, à propos de bonne chanteuse, voilà ce qu'écoutait Valérie Bonneton à ce moment-là.
Oh, bah ouais, mais c'est facile ça.
Non, Didier, vous inquiétez pas.
Moi, j'ai un dossier avec elle.
Aretha Franklin avec Think.
Et c'est votre première apparition en 96 au cinéma, Valérie, dans Love, etc. de Marion Vernoux. Et puis après, vous avez enchaîné pas mal de rôles chez Assayas, Tony Marshall. Des petits rôles, mais toujours avec des petits rôles remarqués où on vous voit avancer dans une dimension un peu comique.
Oui, et c'est pas facile les petits rôles. Il faut être dans l'histoire, il faut pas essayer d'en faire plus que le petit rôle, c'est tout. Mais en même temps, d'être là, mais j'ai beaucoup appris en fait avec les petits rôles, beaucoup. Parce que. On est obligé de faire preuve de plus d'intelligence, peut-être, je sais c'est pas. Vrai. Et puis on apprend parce que c'est vraiment l'école de l'humilité, quoi, les petits rôles. Donc, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ce parcours, d'avoir petit à petit ces petits rôles, etc. C'est plutôt une chance.
Et quand vous abordiez à l'époque un petit rôle, ça veut dire que vous lisiez le scénario en entier,
travaillez.
Non, parce que parfois, il y a des gens qui se contentent de lire leur scène.
Ah bah non! Surtout que je recevais peu de scénarios, donc au moins je le lis quand même. Je reviens en histoire.
Vous, vois, aviez le temps en plus avec un petit rôle.
C'est ça. De rêver sur le rôle des autres aussi. Hein. C'est vrai, c'est bien.
Un jour je serai elle.
Vous rêviez de quel rôle à l'époque? Ce qu'on vous a donné maintenant? Ce qu'on vous donne maintenant?
C'est vrai que quand on sent le feu en soi, une capacité, je le dis, c'est comme ça. C'est vrai qu'on est un peu frustré parce que parfois, quand on va au théâtre et ou au cinéma et quand on voit certains rôles, on se dit « Oh non, moi je sais que je l'aurais joué comme ça. Je sais que c'était ça. Pourquoi ? Pourquoi ?» Voilà.
Et vos voisins de théâtre ne sont pas dérangés quand vous parlez comme ça?
Les voisins d'eux.
Quand vous êtes au théâtre, les gens à côté de qui vous êtes assis ne vous disent rien quand vous hurlez comme ça?
Non, pourquoi? Non. Mais ça nourrit, voilà, c'est bien.
Valérie Bonneton et Didier Bourdon sont nos invités pour parler de Garde alternée, ce film qui sort ce mercredi 20 décembre. Et nous avons demandé à Christophe Forêt, docteur Christophe Forêt, s'il
bonjour
vous plaît, psychiatre et psychothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des ruptures,
de vie,
exactement. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont Est-ce que tu m'aimes encore ou Comment t'aimer toi et tes enfants. Et vous avez publié en janvier.
C'est des titres à la Marc Lévy.
Moi,
je suis désolé.
Il
y a un fantôme qui revient dans l'histoire aussi, souvent.
Comment t'aimer toi et tes enfants?
S'aimer enfin, où vous expliquez votre rencontre avec le bouddhisme.
C'est le
3. On voulait avoir votre point de vue.
Comment t'aimer toi et mes enfants?
c'est sur la famille recomposée.
Donc vous l'avez invité pour le torcher, on est d'accord?
Non, en plus il est très sympa, Christophe. Oui, c'est pas la première fois qu'on se voit.
Mais oui, on s'est déjà vu pour parler de la fin de vie, donc c'était un
bon. On s'était bien marré, je me souviens.
J'ai promis de remettre ça, mais voilà.
Non, parlons des situations justement où on se sent. Où on est trompé ou on se sent trompé, que ce soit homme ou femme. Quelle est la réaction traditionnelle, celle que vous avez pu rencontrer dans...
La première réaction, c'est déjà une stupeur, parce qu'il y a quand même fondamentalement sa sécurité fondamentale qui est mise en question. On a investi sa vie, son cœur dans une histoire, et d'un seul coup, avec un SMS ou un mail, on découvre que cette sécurité qu'on pensait être acquise, ça s'effondre. Donc déjà, de la stupeur. Après, on peut se défendre face à ça, soit par de la colère. La colère, il y a une énergie pour réagir face à l'effondrement, ou alors, l'effondrement, un truc dépressif où on se dit, mais comment c'est passé, mais comment c'est possible. Mais il y a beaucoup...
Que ce soit, pardon, homme ou femme.
Homme ou femme, oui. Homme ou femme. Souvent, des femmes qui découvre.
Valérie, pourquoi tu...
Je sais pas, je vois un petit sourire, un petit truc.
Non, je me demande non, si c'est, la réaction...
Ça arrive souvent un SMS, comme ça on sort de sa douche, on voit un SMS, on dit mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et après, tout dépend l'intentionnalité derrière, parce qu'il y a 1000 infidélités. Il y a l'infidélité qu'on utilise comme un levier pour vraiment mettre fin à sa relation. Et là, on ouvre le PC sur la table de la cuisine avec tous les mails et toute la conversation qu'on a avec sa maîtresse. Et là, c'est clair, on est en train de dire, écoute,
attrape-moi.
C'est amusant de parler des SMS parce que c'est évidemment le point de départ. C'est le point de départ. Ça commence par un SMS et vous allez, le personnage de Valérie Bonneton va se servir du SMS comme d'une arme. Finalement, et c'est absolument
comme un recueil littéraire même.
Sur le film, je pense que mon personnage au début, on en avait parlé avec Alexandra, il pousse très très loin sa trompe. Il cherche quelque part inconsciemment, c'est comme ça que je l'ai joué, pour que sa femme, à un moment donné, découvre le poteau rose.
Parce
qu'il
y a souvent une recherche de signal. Plein de gens, vraiment, on peut avoir l'impression que c'est pas le cas, mais plein de gens ont pas forcément envie, un projet conscient de tromper la personne qu'ils ont. Mais il y a quelque chose... qui se passe et qui fait qu'on veut que l'autre sache plus ou moins. Ouais.
Alors, les réactions quand on sait être trompé, ça peut être évidemment le sujet du film, la garde alternée, mais enfin, je pense que c'est quand même relativement rare comme situation. Mais ça arrive?
Ça peut arriver, comme disait Valérie tout à l'heure, c'est vraiment fondamentalement, c'est de l'amour. C'est mon gars, il est en train de partir. Je suis prêt à aller jusqu'où pour garder mon gars?
Donc vous êtes d'accord, c'est une réaction, c'est la femme qui décide.
C'est souvent la femme qui décide. Pardon pour le courage, les hommes qui sont autour de cette table, mais les femmes vraiment sont beaucoup plus courageuses que les hommes. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de femmes qui quittent leur couple alors qu'ils n'ont pas de plan B à un mec sous les
gars. Ils attendent le plan B.
Alors que très souvent, l'homme va quitter la relation parce qu'il a un plan B, il a souvent une autre relation.
Et donc, il arrive à être cul dans la famille.
Souvent, les femmes n'ont pas peur de la solitude, mais les hommes, quand même.
Exactement. et c'est beaucoup plus courageux une femme. Non, c'est vrai.
Alors sinon, traditionnellement, est-ce que c'est le pardon qui l'emporte dans les situations de tromperie, ou est-ce que c'est au contraire vengeance et la séparation?
Pardon, je sais pas, parce que le pardon, il est directement proportionnel à la colère. Plus on est en colère contre la personne qui nous a trompés, moins on a la capacité à pardonner. Moins on est en colère, plus on peut pardonner. Et c'est ça, un cheminement au bout du compte. Travailler sur le pardon dans la relation, si on veut essayer de reconstruire le couple, c'est d'abord travailler sur la colère qu'on éprouve. Parce que il y a quand même des tas de choses qui se sont passées. On s'est dit droit dans les yeux. Est-ce que, on a demandé à la personne, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Et l'autre, droit dans les yeux, a dit, mais non, je t'assure, tu es folle de penser ça. Et qu'après, on découvre que c'est un mensonge. Droit dans ses bottes, droit dans les yeux. Après, il faut récupérer. Ils ont dit, mais comment tu as pu me mentir comme ça? Donc, la dimension de colère, elle est vraiment au cœur. Et il y a une blessure aussi, une blessure fondamentale d'avoir été trahi alors qu'on avait mis tout de soi.
Donc, ça veut dire que continuer malgré la tromperie est une grosse erreur, parce que il y aura toujours la marque de la brèche dans la tasse.
Il y aura toujours
tasse.
Une marque, mais peut-être que c'est un mirador de surveillance qui va permettre au couple de continuer, justement. Très souvent, les couples restent... Je parle des couples qui ont vraiment des longues histoires où il reste quand même de l'amour, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pas parce qu'on est infidèle qu'on n'aime plus la personne.
On peut être infidèle.
On peut être infidèle parce que on a besoin de quelque chose d'autre et on prend une situation complètement contre-productive d'une autre relation extra-conjugale, alors qu'on adore toujours son épouse. Et il y a quelque chose en soi qui a besoin d'autre chose, mais on n'arrive pas à le définir. Et puis on
tombe. Il y a aussi ce que l'on voit un peu dans le film, c'est la personne trompée se pose des questions sur elle-même en se demandant si c'est pas sa part de responsabilité.
Et là, c'est un gros tourment, c'est un peu la double peine. C'est qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à cette situation-là?
C'est un peu votre personnage, Valérie.
Mais non, c'est un peu normal, quoi, au bout de 15 ans. C'est-à-dire que. Ouais. Il y a quelque chose forcément
qui s'éteint. Voilà, et c'est ça qui peut être un moteur de redémarrer la relation. C'est, je me rends compte que je me suis vraiment endormi pendant 15 ans. Et qu'est-ce que j'ai lâché? À quoi j'ai renoncé? Et peut-être parce qu'il y a une autre personne, une autre femme, on va dire, OK, je vais réinvestir ce que j'ai complètement désinvesti depuis tant d'années.
Est-ce que toutes les cultures sont aussi dans ce rapport possessif à l'autre?
Je sais pas ça.
Parce que idée selon laquelle de dire bon bah voilà, on est en couple, on est amoureux, et pourquoi est-ce qu'on n'autorise pas l'autre à aller se promener sans que ça soit un problème quand il revient à la maison, en se disant t'es pas ma propriété, tant que tu me garantis ton amour, ton corps, tu en fais ce que t'en veux.
Ouais, c'est plus sous nos latitudes, une vision occidentale avec un truc quand même très exclusif dans la relation. Je suis pas en train de prôner la fidélité, mais c'est.
Mais vous
c'est
avez vrai raison, il faut sortir de tous ces sentiers là-dessus. Là.
Non, mais c'est. Il y a vraiment quelque chose qui peut être potentiellement très enfermant dans cette idée d'absolu. Parce qu'il y a quand même l'autre, c'est une autre personne, il a son jardin secret. Je dis pas qu'il faut c'est pas un plaidoyer pour l'infidélité, mais quelque chose qui est de l'ordre.
Est-ce qu'on est fait pour être fidèle?
Pas du tout.
C'est un choix. À chaque fois, c'est un choix renouvelé. Vraiment, c'est pas structurellement on est fidèle ou pas. C'est un choix tous les matins renouvelé de dire est-ce que je rechoisis cette personne-là? Et la rechoisir pendant 15 ans, pendant 20 ans, c'est super compliqué.
Non, ça veut aussi dire continuer de séduire l'autre aussi.
Continuer sur les sous, mais de séduire, mais après 15 ans, on fait plus attention à l'autre. Et c'est ça le
grand changement. Il y en a qui font encore changer.
Il y a des enfants aussi qui prennent beaucoup de temps.
Voilà, c'est le fameux baby clash. Après il y a des zones de fragilité dans le couple. Hein, quand par exemple les enfants arrivent, la maman qui était l'amante, vraiment c'était intense, devient maman. Et le fameux baby clash, c'est le gars qui se sent complètement mis sur le côté.
Merci docteur Christophe Fauré. Vous publiez donc en janvier 2018 chez Albin Michel, mais on sait que vous allez revenir dans cette émission tellement on vous apprécie. Ce récit intime où vous expliquez votre rencontre avec le bouddhisme, ce qui a changé dans cette
il y a 15 ans.
Spiritualité.
Ça va s'appeler S'aimer enfin.
Bonne fête de fin d'année si on ne se revoit pas d'ici là.
Merci
à
beaucoup.
De S'aimer enfin. Tanguy Pastureau, bonjour Tanguy, vous serez là à 12h10. Le site internet Pure Média a appelé les internautes à voter pour la radio.
Oui, pour leurs émissions et animateurs radio préférés. C'est un échec pour vous, pour moi, pour France Inter. Nous sommes derniers partout. À l'évidence, nos éditeurs n'ont pas voté, préférant sans doute aller sur des sites intéressants. RTL a tout raflé. Je ne sais pas si j'ai fait le bon choix. Nagui.
À tout à l'heure. Tanguy Pastureau, Valérie Bonneton et Didier Bourdonçon, nos invités dans la bande originale jusqu'à midi et demi.
France Inter. La bande originale avec Nagui.
C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Émile Acadoboudou.
Bonjour à tous.
Marina Rollman. Tanguy Pastureau. Daniel Morin.
Salut toi.
Tom Villa.
Bonjour.
Et nos invités, Valérie Bonneton et Didier Bourdon.
Bonjour. Bonjour.
Et bon anniversaire, Arlette.
Et oui, 84 ans, c'est joli.
Maman dit.
Et c'est l'anniversaire de mon grand-père aussi. Je lui souhaite un très joyeux anniversaire. 89.
Ouais. D'accord, ah, d'accord. Là, tu sais que tu es à l'antenne là. Tu es au courant que tu es à l'antenne.
Pourquoi ?
Mais parce que Didier est notre invité. Il a le droit de souhaiter un bon anniversaire à sa mère. Toi, non. Okay. C'est tout. Voilà.
Bah, comme mon grand-père il va mourir, on en reparle.
Oh, oh, c'est
non,
dégueulasse.
Non, non.
Et 89, à mon avis.
Voilà. Oh, mais t'es monstrueux. T'es prêt à tout pour la vanne.
Pessimiste.
Il est prêt à tout pour faire rire. Choqué. Alexandra Leclerc signe ce film avec Valérie Bonneton, Didier Bourdon, Isabelle Carré, Hélène Vincent, Laurence Stocker de la Comédie Française, Michel Villermoz de la Comédie Française, Jacques-Yves Berroyer de Canal+, ex en tout cas. Cette garde alternée, c'est une femme qui l'a écrit, ce film. Est-ce que ce point de vue féminin, Valérie, est important aussi? Quand vous l'avez reçu, quand vous l'avez lu, est-ce que finalement, les vannes, les situations, vous les auriez perçues de la même manière si ça avait été écrit par un homme, sincèrement?
Bah, évidemment que ça fait du bien. Évidemment que là, c'est les femmes sont fortes et elles décident un peu de leur vie. Donc, Alexandra, elle remet les choses un petit peu à leur place. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Donc, oui, c'est important. Mais pour moi, c'est pas. Je dirais pas que c'est un film féministe. C'est un film normal.
Oui, oui, non, absolument. Mais hein, surtout, le...
Okay.
Elle fait pas peur du tout quand elle
se pose ce couteau.
Pourquoi ce serait pas un film féministe? Pourquoi ce serait un problème que ce soit un film féministe?
Non, c'est pas un problème.
Non, je veux dire, parce que d'avoir à revendiquer quelque chose, je trouve pas. Je trouve que là, les rôles sont inversés. C'est très bien, c'est normal pour moi. On est en 2017, c'est normal.
Inversé pourquoi?
Non, mais que ce soit là...
Toujours un homme qui se partage entre deux femmes. Oui. Bah, pour le coup, c'est toujours l'homme qui a un peu le choix, même si c'est pas lui qui décide.
Ouais, mais quelle contrainte.
Là, c'est pas lui qui décide finalement. Ouais. Est-ce qu'on pourrait... c'est elle qui inverse.
Alors, bonne question. Est-ce qu'on pourrait imaginer l'inverse? C'est-à-dire une femme qui a un mari, qui a un amant, et qui va faire aussi la garde alternée en allant une semaine chez son mari, une semaine chez son amant. Est-ce que ça, c'est
pourquoi
possible?
Pourquoi pas? Ouais, ça serait bien.
Bien sûr.
Ouais, ça serait bien.
Je vois on a Didier qui dit. Et là, ça me ferait des vacances vraiment.
Mais là, vraiment.
Oui, parce qu'il est physiquement fatigué, parce qu'il y a une demande sexuelle clairement précise de la part et de sa femme et de sa maîtresse. Mm-hmm. Et il ne sait même plus d'ailleurs où il doit aller, chez qui il habite, à quel moment dans la semaine. Il se paume avec son moyen de locomotion assez drôle aussi. Mais...
Oui. Et puis bon, en même temps, il est content parce que le corps exulte à nouveau.
Et de chaque côté.
Comme Jacques Brel. Ouais, ouais. Et alors après, pour les scènes, c'est vrai que c'était quand même fatigant parce que même si on ne le fait pas en vrai, on le fait plus que dans la vraie. Quoi. Parce qu'on le fait au moins 15-16 prises. Je pense que dans la vraie vie, Dagui, sans vouloir
être
désobligeant.
D'habitude, en deux prises, vous êtes plutôt efficace, Didier. Comment ça se fait que vous ayez
fait assez
Non, parce qu'au cinéma, hélas, on est obligé de faire plusieurs angles pour le montage. Sinon, dans
la vie,
au bout de 6-7 fois, on va se calmer.
Est-ce que vous êtes sûr de tout ce verbatim? Vous parlez de...
Comment?
Vous parlez de prise? Vous parlez
d'angle? Oui, ça, c'est le cinéma qui
est technique.
C'est technique. Hein.
Ouais, ce ne serait pas toi qui serais tordu, Nagui.
Mais on ne vérifie plus le poids, là, maintenant, sur le plateau.
Vous savez, c'était une technique. Il
faut expliquer aux gens. À l'époque, c'était parce que quand il y avait la pellicule, on vérifiait après chaque prise, voir s'il n'y avait pas le poil, le fameux. C'est-à-dire que si la pellicule n'était pas abîmée. Mmh. Et c'était toujours, d'ailleurs, moi je me souviens pour les trois frères, quand il y avait une scène super avec le gosse, on tremblait en se disant, pourvu que la scène soit bonne. Quoi,
c'est le futur, on recommence.
Et aujourd'hui, comme tout est numérisé, il n'y a plus
plus de problème de poils. Très bien. Un peu comme pour Daniel Morin, on en parlera tout à l'heure. Voici l'heure de retrouver Tanguy Pastureau. Tanguy, le monde de la radio est en effervescence.
Oui, la radio, c'est un outil formidable, celui de la proximité. En ce moment, je suis écouté par des centaines de milliers de gens qui, dans la voiture, qui au travail, qui au lit, en train de faire l'amour, excités par la sensualité qui se dégage de mon organe. La radio, ça ressemble à la télé, puisqu'on est filmé, comme sur TF1, et qu'on est payé, comme sur TVR3, la chaîne publique roumaine. Et cette semaine, ont été attribués des prix, les radionotes du site Pure Média, un site web d'étalage d'ego, où des gens de la profession
profession viennent voir si on parle d'eux en espérant que les autres se soient bien plantés niveau audience. Alors j'ai donc parcouru le palmarès sur d'y trouver Léa Salamé, Nicolas Demorand, tous ces gens à qui le matin je dis bonjour et qui ne me répondent pas parce qu'ils ne savent pas qui je suis. Eh bien non, scandale. Alors que France Inter cartonne, je me souviens encore de vous Nagui lors des derniers sondages nous crier on est en train de niquer Stéphane Bern, on repart sans prix.
Pas physiquement, évidemment.
Alors que ce sont les gens qui votent. Donc soit nos auditeurs sont pudiques, ils ne savent pas nous dire leur amour, tel Rocco Siffredi dans les films, qui joue systématiquement un type qui n'a pas les mots et doit se débrouiller sans. Soit nous ne sommes suivis que par des parkinsoniens qui n'ont pas pu cliquer sur le bon choix. C'est une semaine noire pour Radio France. Mathieu Gallet, dans son bureau, doit être en train de pleurer. Puis il regarde son bureau, hein, 900 mètres carrés avec piste de bowling, cette fois la superficie d'un centre pour migrants, et donc arrête de pleurer. Prix de la radio de l'année, gagnante, RTL. Pile quand je me casse, y a pas à dire, je fais de bons choix. Moi, si en 61, j'avais eu à signer en maison de disques les Beatles, je leur aurais dit, désolé les gars, j'ai pas le temps de vous recevoir, là j'ai rendez-vous avec Dick Rivers pour un contrat sur 30 ans. En fait, votre coupe de cheveux, ça va pas, au revoir. Divertissement de l'année, les grosses têtes, RTL, émission qui consiste à écouter Laurent Baffi fille dire à Caroline Diamant « ça va grosse pute » tandis que Pierre Bénichoux parle de lui avec délectation. La bande originale est quatrième. Ouais. C'est une humiliation. Si nous étions au Japon, nous nous ferions harakiri avec les clous des baskets de Nagui ou avec les clous de la veste de Nagui. Il a toujours des clous quelque part. Hein. C'est pas un mec, c'est un castorama. Plus grave encore, c'est terrible, nous sommes derrière le super Moscato Show de Vincent Moscato sur RMC. Une émission d'humour sur le sport. Alors que ça sert à rien, il suffit de regarder les résultats de l'équipe d'Angers pour rire.
C'est violent tout ça, je savais même pas. Si. Et pardon de vous poser la question. Comme oui, ça, oui. Moi, personnellement, je...
Non, vous n'êtes pas bien classé, Nagui. C'est un échec. C'est votre Waterloo, votre Coupe du Monde de Foot 2002, votre parcours de Benoît Hamon. Dans la catégorie voix masculine de l'année, vous êtes cinquième derrière Vincent Moscato. Qui devient donc notre pire ennemi. Un avion passera à 15h tout à l'heure au-dessus des locaux d'RMC avec une banderole « Fuck Moscato ». J'ai mis ça sur votre compte PayPal, Nagui. Et Anne Hidalgo éteindra ce soir la Tour Eiffel en hommage à votre carrière radio qui s'arrête ce jour. Vous, derrière Moscato, je pensais jamais voir ça, à part chez Patrick Sébastien lors d'une chenille bien bourrée. Voix féminine de l'année, gagnante, Daphné Burki sur Europe 1. Coup de bol, ses 16 auditeurs ont chacun 4000 adresses mail et ont pu voter pour elle pendant 7 jours de 6h à 23h. Humoriste de l'année, Laurent Gérard d'RTL. J'ai regardé, je suis 244e derrière Tex, François Hollande et les habits de la reine Elisabeth II. Deuxième, Canteloup. Donc désormais, je ferai des imitations. Hein, j'arrive quand même à faire Mitterrand. Denis Baupin. Mais aussi Zinedine Zidane qui parle. Voilà. Et Carla Bruni a cappella. Voilà. Sinon, intervieweur matinal, dur comme métier. Hein. On fait face à des politiques qui n'ont pas eu le temps de se doucher et viennent de boire plusieurs cafés. Ça, ou faire un doc sur les putois pour la chaîne Animaux, c'est pareil. Le gagnant est Jean-Jacques Bourdin d'RMC devant Léa Salamé de chez nous. Donc sur la banderole de l'avion après Fuck Moscato, je vais ajouter et Bourdin. Enfin, en émission de récit de l'année, le gagnant est Christophe Ondelat d'Europe 1, le roi des faits divers qui a fêté sa victoire dans les locaux de la brigade criminelle. Dansant avec le cadavre du chef gitan Sergio Sanchez, dit le balafré psychopathe, retrouvé mort de 30 balles dans la tête, la police a conclu un suicide. Fabrice Drouel de France Inter n'arrive que troisième, donc j'en appelle à nos auditeurs. Bougez-vous les seniors. Pour 19,90€, vous avez accès à Internet et pouvez voter pour Nagui, qui vit là son anus horribilis. Ce qui ne signifie pas qu'il a des fesses pas top, mais qu'il est au bord du gouffre. Fin octobre, Élise Lucelle a détrôné dans le classement des animateurs préférés des Français. La Moscato le double et en 2018, quoi, Christian Morin passe devant lui. Lançons le Naguiton. Nous, nous sommes là, Nagui, et nous vous aimons.
Merci beaucoup, Dominique Bessieu.
Nagui sur France Inter.
On a quand même pris les devants au cas où, hein, le 27, on reçoit Vincent Moscato.
Oui, ouais. C'est dur.
Le cheval de Troie.
On va remonter l'audience de,
voilà,
de
ouais, exactement, c'est le 27.
C'est gentil. Garde alternée, un film réalisé par une femme. J'insiste là-dessus, Valérie, parce que je voulais savoir si certaines scènes dans ce film, vous auriez accepté de les tourner si ça n'avait pas été une femme.
Oh, à la réalisation. Bah, oui, si le scénario est... est le même. Enfin voilà, c'est... Non, une femme ou un homme.
Si ça n'avait pas été Didier Bourdon.
Ah, là.
Parce qu'alors tous les deux, vous donnez de votre corps, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ouais.
Et être nu face à la caméra, ça pose un problème. Ça n'a pas été souvent le cas pour vous.
Non, mais ça dépend comment c'est filmé et tout ça. C'est vrai que danser à moitié nu sur la place Saint-Sulpice à 3h du mat',
c'est pas... Moi, j'appelle pas ça à moitié nu, j'appelle ça nu.
Ouais, ouais. Non, pas complètement nu.
Cachez-vous derrière ce que vous voulez.
Eh ben, écoutez, là, je me suis dit, j'aurais pas deux fois l'occasion de faire ça quand
ça
même.
Ça m'a surpris.
Et je suis venue sur la place Saint-Sulpice, donc voilà, j'y suis allée.
Et merci, et merci pour le spectacle, il est formidable et vous êtes belle comme tout. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête de Valérie Bonneton au moment où la réalisatrice a dit bon, eh ben, on va y aller, tu enlèves tout et tu vas te mettre au milieu de la place et tu danses.
Ah là là, bah, c'était pas sûr que je puisse le faire. Peut-être, moi, je me dis, mais comme les scènes d'émotion, s'il faut pleurer, etc., tout ça, j'y pense pas. Je me dis, peut-être, ça se fera pas. Peut-être, au dernier moment, je me dirai, ah ben non, je le fais pas. Tiens, voilà. Et puis, voilà.
Mais c'était quand même écrit dans le scénario, elle danse nue au milieu de la place.
Oui, bien sûr. Et quand je me suis dit, oui, ça va pas être évident, mais ça dépend comment c'est filmé, Et là, d'un seul coup, je me dis, tout est possible dans ce personnage, ce qu'elle vit dans l'histoire, c'est tout à fait possible. Donc, j'y vais.
C'est une renaissance sexuelle. Donc il faut aller au bout de ça.
Mais oui, j'y vais. Elle retrouve une folie, une adolescence, voilà.
Et on voit Didier aussi tout nu.
Et puis moi surtout, j'adorais cette scène. Je la trouvais dingue cette scène.
Alors c'est pas à Saint-Sulpice, c'est un supplice. Il a
raison. Non, pas du tout.
Bah écoute, moi ça m'a moins plu. Hein. J'ai pas.
Bah, oui, forcément.
Non, mais comme disait Valérie, c'est vrai que on était à l'aise avec Alexandra Leclerc.
Ouais, ça, on était à l'aise.
Voilà. Mais il fallait le faire. Et puis il fallait être fougueux. C'était écrit comme ça.
Mais ces scènes, enfin moi je les trouvais drôles, quoi. J'ai trouvé dingue. Donc bah oui, je trouvais ça super de les faire.
Non, et puis
c'est pas évident.
Non, c'est pas gratuit. Ça vient vraiment rajouter à ce qui se passe dans l'histoire.
Ah bah oui. C'est le point d'acné du personnage. Moi, je trouve quand elle est là, sur la place.
C'est pas la fameuse scène la fameuse scène de la comédienne que l'on voit nue sous sa douche avant d'aller répondre au téléphone et ça servait à rien. Nous avons Daniel Morat. Ne sois pas miné, Daniel.
C'est vrai, je suis resté.
Ah bon, d'accord.
Très bien. Allons-y.
On vérifie le poil ?
Allez, c'est bon.
Daniel Morat.
Quand tu es au sommet de l'échelle, au sommet de la pyramide, il faut savoir faire preuve d'autorité, de fermeté, pas avoir peur de prendre des décisions rapides. Ben hier, notre Premier ministre a su faire preuve de poigne, tout en montrant à son Ségu des responsabilités en tranchant sans hésitation. Dans le dossier gluant de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, Édouard Philippe était attendu. Eh bien, je peux vous dire que quand il prend la parole, Doudou, c'est pas pour rien. Alors à la question, on le fait ou on le fait pas à l'aéroport ? La réponse du chef du gouvernement a été... Devant l'augmentation du trafic à venir dans l'Ouest, il y a deux solutions. Soit on construit un nouvel aéroport, soit on augmente la capacité de celui de Nantes. En résumé, soit on le fait, soit on le fait pas. Ce qui veut dire, pour l'instant, rien. Intéressant cette intervention. Alors devant tant d'indécisions, j'étais sans voix. Et moi, quand je suis sans voix, je m'endors. Et quand je m'endors, je rêve. Dans mon rêve, ce pauvre Édouard Philippe était toujours frappé du syndrome manque de décision, même dans le secteur privé. Chérie, on se prend un apéro ? Devant la demande insistante de boissons alcoolisées, il y a deux solutions. Soit je vais vers le buffet, je prends la bouteille de whisky et je sers un apéro. Soit je ne fais rien, on descend en bar du coin de la rue. C'est pas une réponse, chérie. Je sais. Au boulot aussi. Allô, monsieur Philippe, tout le monde est arrivé pour le conseil des ministres. Vous comptez arriver bientôt ? Devant la question de ma présence ou non au conseil des ministres, il y a deux solutions. Soit je me bouge le cul, je prends une douche, je mets le gyrophare et j'arrive. Soit ils commencent sans moi, je regarde la fin de télématin et je les rejoins. Désolé, c'est pas une réponse, monsieur le Premier ministre. Je sais. Et en vacances, c'est pareil. Papa, tu viens de baigner ? Devant le choix que m'offrent les loisirs de bord de mer, il y a deux solutions. Soit je mets mes brassards, je viens m'éclater dans l'eau avec toi, mon poussin, soit je sors une serviette et je bronze comme une cagole à côté de ta mère. C'est pas une réponse, papa ? Je sais. Au réveil, je me suis dit, il va falloir y aller un peu plus franco-Edouard, sinon on va pas s'en sortir. Et le problème Notre-Dame-des-Landes, c'est pas comme si c'était un truc neuf. Hein. Ça fait 50 ans que le dossier, il traîne. Autre oiseau politique particulier, le nouveau patron des Républicains, Laurent Wauquiez. Sa réaction hyper chelou quand il a appris que Xavier Bertrand quittait le parti. Il a dit, ce n'est pas acceptable de claquer la porte de sa famille politique dans ces conditions. Autoritaire ou quoi, le gars ? Dictatorial ou quoi, le Laurent ? Despotique ou bien, monsieur Wauquiez ? Merde, ça sent pas bon pour sa famille politique. Hein. Stupéfait que j'étais, ça m'a immédiatement plongé dans un sommeil express. Et moi, le sommeil express, ça me fait rêver. J'avais une vision de Wauquiez en réunion. Laurent, il faut que je parte, là, je récupère les gosses à l'école. Non. Comment ça, non ? Non, tu claques pas la porte de la réunion politique dans ces conditions. Wauquiez toujours, mais au resto. Laurent, tu passes la bouteille d'eau, s'il te plaît ? Non, Comment ça, non? Non, t'as déjà bu il y a une heure. Tu vois pas toute l'eau de ta famille politique dans ces conditions. Toujours Vauquier, toujours dans le même resto. Excuse-moi, Laurent, tu peux te décaler, faut que j'aille faire pipi? Non. Mais comment ça, non? Non, tu demandes pas à ta famille politique de se décaler pour aller pisser dans ces conditions. Et toi, là-bas, tu vois ce que ça donne quand on boit trop? Au réveil, j'ai tout de suite eu une pensée pour les membres des Républicains. Pour eux, j'étais très très triste. Bon week-end.
Merci, Laurent. En début de semaine, nous avons Julien Clerc qui était notre invité. Julien sera ce soir dans Taratata aux côtés de Noël Gallagher, Julien Doré qui était venu également dans cette émission, Jacob Banks qui va venir bientôt dans cette émission et Eddie Depreto que voici dans cette émission.
Tu seras viril mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril mon kid, je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire, et je sais si ce sont tout de même les pires à venir, te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril mon kid, loin de toi ces finesses tactiques de ces femmes d'origine qui féminisent groguise sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon. Et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Virilité abusive. Virilité abusive. Tu seras viril mon kid, je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril mon kid, tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril mon kid, tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière en tout sens, défileras fier et dopé de chair de nerfs protéines. Et tu seras viril mon kid, tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent.
Eddie Depreto avec Kid ce soir donc à 22h45 dans Taratata. Parlons de ce film. Non mais écoute, hein, j'avais envie.
Et moi, demain, ça, et moi demain samedi à 13h à France 2 et dimanche aussi à 13h.
Très
Daniel.
Best-of de la bande originale, ouais, ouais. Et puis aussi vous les femmes à 17h.
Et toi, avec Thierry Ardisson.
Salut les Terriens, 19h voilà. Samedi et les
Terriens
du dimanche.
Ah non, ça c'est pas possible. C'est en même temps que N'oubliez pas les paroles, c'est pas possible. Garde alternée, ça vous dérange pas qu'on parle de nos invités un tout petit peu quand même?
C'est toi qui as commencé avec Taratata.
Bon anniversaire, Arlette.
Garde alternée, ce film signé Alexandra Leclerc. Ce film, quand vous l'avez, la première réaction que vous avez eue, quand vous avez reçu le scénario, quand vous l'avez lu, d'abord, est-ce que vous l'avez reçu et lu, ou est-ce que ça a été une rencontre avec cette réalisatrice avec laquelle vous avez déjà tourné tous les deux?
Non, déjà tourné.
Oui, on a discuté un petit peu, on s'est retrouvé avec Alexandra, puis ensuite elle me l'a fait lire, et moi c'était tout de suite, je l'ai trouvé très très bien écrit, je l'ai trouvé très original, parce que c'est un sujet... contemporain, quoi, les familles recomposées, le couple, la difficulté aujourd'hui, ça, enfin, il y a tous les scénarios quand même aujourd'hui, c'est ouais. complètement fou.
Et puis, c'est un nouveau traitement de la séparation, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu au cinéma ce sujet-là abordé avec un homme qui se partage entre deux femmes.
On l'a jamais vu, c'est nouveau, complètement, ouais, c'est nouveau, et je trouve que l'écriture d'Alexandra, enfin voilà, déjà sur le grand partage, c'était comme ça, mais c'est pas, elle écrit pas, elle veut pas faire rire pour faire rire. Je trouve que les personnages sont désespérés, il y a beaucoup d'émotions, c'est sincère, c'est vrai. Donc ça me touche d'abord.
Et voilà. Vous aussi, Didier, vous aviez traité déjà le problème du mariage, 7 ans de mariage, ouais, c'est un sujet qui...
Oui, tout à fait, il y a des
qui résonne pour vous.
Oui, tout à fait, j'ai pas trouvé la solution.
Qu'est-ce qui va passer dans les mois ou dans les semaines à venir, Valérie, pour vous? Vous avez des tournages prévus, une envie de retourner au théâtre?
Oui, mais alors des tournages dont je ne peux pas encore parler.
Ok, n'en parlez pas.
Voilà, et puis le film de Danny Boone qui va sortir au mois de février, La Ch'tite Famille. Voilà.
Et
le 28 février.
Et un One Woman Show, toujours pas, parce que tout le monde vous pose la question, parce qu'on s'imagine
bizarre,
bien
oui.
comme ça, un seul en scène.
Mais non, pas du tout. Moi, j'adore jouer avec les autres, en fait.
Didier Bourdon,
j'adore
vous,
ça.
L'envie de retourner au théâtre.
Au théâtre,
aussi,
oui, ça, je vais reprendre au théâtre fin janvier.
Ça sera
au théâtre Héberto, avec une comédienne que j'adore aussi, c'est Valérie Carcenti, qui est formidable.
Ouais.
Didier Frémont, entre autres. Voilà.
Des excuses à présenter, mon cher Daniel.
Désolé pour nos auditeurs du nord de la France, région, on l'a appris de la voix de Valérie Bonneton, n'a ni le droit à l'art, ni à la musique, heureusement. Il reste les enfants et l'alcool, les amis. Désolé pour le réalisateur de comédie préféré des auditeurs de France Inter, à savoir Michael Haneke, dont le pouvoir de rigolade a été quelque peu remis en cause par le snobinard Didier Bourdon. Hey Coco, on n'est pas sur RTL. Désolé pour toutes les maîtresses de Nagui qui voudraient arrêter de vivre l'enfer, la déception et surtout la frustration en vivant l'amour fou avec moi. Écoutez, jeune fille, je ne suis l'homme que d'une femme. Bon anniversaire, Arlette.
Merci mille fois, en tout cas. Portez-vous bien, passez un bon week-end. À bientôt, Valérie Bonneton.
Merci,
à bientôt, Didier Bourdon.
Merci
encore. Garde alternée, mercredi 20, c'est au cinéma. Tout de suite, des carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bon week-end. Samedi, le best of 17h. Et dimanche 17h, vous les femmes, Daniel Morin.
Merci, Nagui. Merci, la bande. Et à lundi.